Il y a ce que nous, nous voyons et ce qu'elle pense faire, elle. Vous avez sans doute entendu la phrase clé qu'a prononcée le ministre de la Défense américain, disant que la Chine était en train de construire une grande muraille d'isolation. À nos yeux, la Chine est en train de se construire une armée d'ennemis, en quelque sorte, de populations relativement hostiles. Elle ne fait qu'irriter ses voisins. Dans son point de vue à elle, d'abord, elle marque le territoire qui a toujours été sur les cartes chinoises depuis 1912, un territoire chinois, et donc elle s'affirme dans la région comme une puissance qui compte. Alors ensuite, quand on fait la part des choses, effectivement, la Chine surinterprète ce qu'on appelle les domaines maritimes, et elle essaie effectivement de bétonner à tous les sens du terme son espace. Elle a un espace maritime qui lui est reconnu, elle a son espace souverain qui est à 12 000 nautiques au-delà de ses côtes. Là où elle n'a pas de côte, effectivement, elle construit des îles artificielles. Et au-delà des 12 000 nautiques, elle surinterprète aussi la législation qui dit qu'à 100 000 nautiques au-delà de cette zone, le pays souverain peut exploiter la région. Mais il s'agit d'une exploitation économique, il ne s'agit absolument pas d'une utilisation souveraine. Et ce que l'on reproche justement à la Chine, c'est de mélanger un petit peu les deux sujets. Et elle le fait probablement sciemment, en jouant sur l'ambiguïté, en disant qu'elle ne fait rien d'autre qu'utiliser économiquement des territoires qui doivent être utilisés par elle, mais tout le monde lui reproche, probablement à juste titre, de faire un usage quasi militaire de ces espaces qui sont supposés être uniquement économiques.
Ça veut dire qu'elle plante son drapeau, qu'elle installe des hommes, un blocus maritime par exemple ?
Absolument, absolument. Alors maintenant, si on regarde les conséquences de tout ça, si jamais ce que tout le monde exclut aujourd'hui, la Chine allait au bout de cette logique en disant « c'est moi qui dois contrôler tout ce qui se passe dans le coin ». Elle joue un petit peu contre son camp aussi, parce que comme on le lui a dit, par exemple l'Inde a 50% de son trafic commercial qui passe dans cette zone-là, donc on voit mal la Chine dire brutalement à l'Inde « il faut que nous donnions une autorisation » ou en tout cas « il faut qu'on ait notre mot à dire ». On voit mal la Chine priver la Corée et le Japon de 80 à 90% de leurs ressources en hydrocarbures qui passent par là aussi. C'est peut-être de la dissuasion, c'est peut-être une interprétation dissuasive à la chinoise. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne fait pas du tout plaisir à ses voisins. Et derrière ses voisins, naturellement, il y a aussi les États-Unis qui voient d'un très mauvais œil cette surinterprétation du territoire maritime.
Est-ce que la Chine craint justement cet isolement ?
Les dirigeants chinois, très souvent et de façon presque unanime, redoute toujours de se retrouver dans la situation qui a préexisté au XXe siècle, c'est-à-dire celle où la Chine était à la fois encerclée, dominée, et sa situation géopolitique, avec deux rideaux d'îles qui l'empêchent d'accéder à la pleine mer, à ce qu'on appelle la mer bleue, l'eau bleue, donc le grand océan, redoute d'être soumise à un blocus. Et donc pour être soumise à un blocus, eh bien, elle fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle menace pratiquement de blocus les autres candidats à la libre circulation. Et de son point de vue à elle, c'est un point de vue défensif et c'est même une attitude moins que défensive, tout simplement protectrice de ses propres intérêts. Mais elle a une vision de ses propres intérêts qui peut surprendre lorsqu'on considère la Chine comme une puissance agressive, dominante. La psychologie des dirigeants chinois, c'est qu'ils sont toujours en risque d'être encerclés et dominés.
Comment est-ce que les pays de l'Asie-Pacifique pourraient réagir ? Est-ce qu'il y a une alliance potentielle contre Pékin ?
On n'en est pas là aujourd'hui. Il y a eu un signe, bien sûr, extrêmement fort qui a été donné avec ce qu'on appelle la levée de l'embargo américain sur le Vietnam. C'est un retour à une situation pré-guerre du Vietnam. Donc théoriquement, le Vietnam peut s'équiper d'armement américain. Alors même que, symboliquement, la peine maximum qui a été imposée à la Chine, c'est l'embargo. Depuis 1989, cet embargo, il a pour prétexte Tiananmen, c'est-à-dire le fait que les dirigeants peuvent tirer sur leurs propres ressortissants pour des questions que l'on peut interpréter comme droits de l'homme. A priori, il n'y a plus de Tiananmen depuis 1989, mais l'embargo est maintenu précisément pour ne pas donner à la Chine accès à des technologies d'armement dont on ne voudrait pas qu'elle se dote, de façon à ce qu'elle ne prenne pas le dessus dans la région. Donc les voisins n'ont pas encore constitué d'alliance. Le chef des armées américaines, dans son discours, rappelait d'ailleurs à quel point tout n'était pas si noir, puisqu'il y a des manœuvres conjointes qui sont exécutées par tous les pays de la région entre eux, y compris d'ailleurs des opérations même relativement peu significatives entre la Chine et les États-Unis. Donc on n'est pas du tout dans une situation de guerre froide où les deux forces en présence s'abstiennent de se parler. On n'est donc pas dans une situation où il y aurait nécessité de constituer une alliance contre la Chine.
Et quand les États-Unis, les Américains appellent à une plus grande coopération militaire encore avec la Chine, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire justement ?
À l'engager. En fait, même si les Américains refusent le terme de G2, donc de gouvernement du monde à deux, les Américains souhaitent engager la Chine au titre des responsabilités qu'elle a maintenant en tant que grand pays jouant dans le jeu mondial pour aider à résoudre un certain nombre de crises et puis pour s'engager dans le sens des résolutions. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le propos qui est tenu, c'est « engagez-vous à nos côtés lorsqu'il y a des actions à mener et que nous pouvons trouver une ligne commune ».
Comment répond la Chine ? On a vu qu'elle avait pris ses distances par rapport à la Corée du Nord. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elle est finalement moins seule qu'elle ne l'a été par le passé ?
Elle est toujours très seule. On pourrait dire que le moindre détail la fâche. L'élection d'une présidente pseudo-indépendantiste, c'est quelque chose qui irrite la Chine. Quant à dire qu'elle a des alliés, c'est encore très très tôt pour le dire. Ou alors, si elle a des alliés, ce sont des alliés très encombrants. Même l'Iran est un allié encombrant dans le contexte actuel. La Corée du Nord, c'est un allié plus qu'encombrant. Et quant au Pakistan, bien sûr, c'est un allié à moitié encombrant, puisqu'on sait qu'une partie du Pakistan échappe au contrôle de son pouvoir central.
Vous disiez tout à l'heure que la Chine cherchait en fait à se protéger d'une certaine manière, à avoir ce débouché sur le grand bleu, ou je ne sais plus exactement quelle était l'expression.
Oui, ça se fait, oui.
Voilà. Est-ce que néanmoins, il y a dans sa tête, dans son esprit, une politique de conquête ?
Il est assez simple de répondre par la négative à cette question-là. L'argument chinois, c'est de dire, si vous regardez notre histoire, nous n'avons jamais été un pays conquérant. Nous avons toujours occupé notre espace et cherché à l'occuper en plein, mais nous n'avons pas débordé, nous n'avons pas mené de guerre de conquête. Nous avons été conquis souvent. Et puis la deuxième raison, c'est que malgré la menace asymétrique que la Chine représente pour un certain nombre de ses adversaires potentiels, elle n'est pas en mesure aujourd'hui de conquérir. Et il faut se souvenir que le dernier vrai conflit que la Chine a mené, c'était 1979, c'était contre le Vietnam justement. Et ce n'est pas un très très bon souvenir pour l'armée chinoise, puisque ça a été un recul assez rapide, avec un échec tout à fait inattendu. L'armée chinoise, bien sûr, a fait énormément de progrès. Il y a une modernisation colossale qui est en train d'avoir lieu, de façon à ce qu'elle soit à la hauteur des plus grands. Son budget militaire est bien sûr le deuxième budget militaire mondial, mais on est encore très loin d'avoir un pays qui est en mesure de mener une offensive, où que ce soit. C'est un pays qui s'équipe, c'est un pays qui surtout se met en mesure d'aller défendre ses ressortissants, en particulier en Afrique, d'où la constitution d'une base militaire à Djibouti. Mais aujourd'hui, pas de signe, bien sûr, qu'elle soit conquérante.